Christian Parizeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste chez Aurel BGC. On va parler avec vous de perspectives économiques, aussi bien sur les marchés que donc pour les pays concernés, États-Unis, Europe et reste du monde. Comment vous abordez cette fin d'année? Alors peut-être commençons par ce qui fait l'actualité, la politique de la réserve fédérale américaine. Est-ce que ça vous a conduit à changer votre scénario économique?
On est surtout face à un mur d'incertitude. C'est-à-dire qu'on avait pris l'habitude que les banquiers centraux nous guident, nous donnent ces fameuses forward guidance. On vous explique ce qu'on va faire, on le dit longtemps à l'avance, on va pas vous surprendre et on évite toute surréaction des marchés. Donc ça nous a surpris le fait qu'elle fasse un statu quo alors que tout le monde s'attendait quelque part à ce qu'elle commence à normaliser sa politique monétaire. Alors deux choses l'une, pourquoi elle l'a fait? Alors premier élément, c'est des dissensions au sein du FOMC. Il y a vraiment impossibilité d'avoir un consensus, donc c'est pas très rassurant pour l'avenir. On se dit, ils ont des visions opposées, et voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire après? S'ils sont en retard, est-ce qu'ils feront pas plus parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont en retard? Donc ça, c'est la première vision. Et puis, deuxième chose, c'est la justification, c'est aussi de dire que la croissance américaine est relativement fragile. Alors, il y a deux éléments qu'a mis en avant M. Bernanke, le risque de politique budgétaire avec ce plafond de dette qui arrive, ces négociations entre démocrates, républicains qui pourraient freiner la conjoncture. On voit que déjà, on a une enquête auprès des CEO américains, on voit qu'il y a un début de gel des embauches en se disant on va voir comment on va s'en sortir sur cette problématique-là. Donc, il y a cet élément-là, et puis le fait de dire s'il y a vraiment un gros risque de financement sur l'État américain, ce sera bien que la Fed soit là pour intervenir. Bon, ça, on va dire, c'est court terme. Donc, on a mieux reporté pour refaire demain encore une normalisation de la politique monétaire. Ou alors, il y a la vision beaucoup plus noire de dire la croissance reste trop faible, l'économie américaine est fragile, la récente hausse des taux aujourd'hui va peut-être fragiliser le marché immobilier et on va aller vers un ralentissement. Et dans ce cas-là, c'est pas très positif. Ça veut dire que malgré ce quantitative easing, malgré ces 85 milliards, malgré la réaction court terme de la bourse en disant super, la Fed continue à injecter des liquidités, économiquement, on ne va pas avoir ça, des révisions à la hausse des bénéfices par action. Donc on est sur quelque chose d'assez mitigé encore pour les prochains mois.
Oui, ça veut dire quelque part, les investisseurs avaient les yeux rivés sur cette décision de la Réserve fédérale américaine, cette stratégie de la Réserve fédérale américaine, et qu'aujourd'hui, ils sont encore plus dans l'incertitude, ayant parié sur effectivement une sortie, donc quelque part parier sur les actions. Ils se retrouvent aujourd'hui un peu coincés.
On est évidemment à la croisée des chemins. C'est-à-dire que soit c'est une croissance relativement molle, mais qui permet à la Banque centrale de normaliser, de reprendre la liquidité tout doucement, les taux remonteront, mais tout doucement, c'est toujours une question de rapidité. C'est-à-dire qu'il faut que la croissance soit là pour pouvoir réviser à la hausse les bénéfices par action pour être confiant sur la croissance, mais que derrière, on n'ait pas une surréaction des taux longs. Donc, si on est sur une croissance molle, ça laisse le temps à tout le monde de souffler et de normaliser progressivement. Le risque, c'est soit la Banque centrale se trompe, la croissance est plus forte, et il va falloir qu'elle réagisse très vite pour éviter la formation de bulles, pour éviter qu'il y ait des craintes de, finalement, de dire, elle est en retard, il y a un risque inflationniste qui pourrait réapparaître d'ici quelques années, et il faut qu'elle fasse vite. Et à l'inverse, s'il y a une rechute, c'est pas bon non plus, parce qu'on est dans le fait, on a fait tout ce qu'on a pu, et finalement, l'économie n'est pas repartie. Donc, on est vraiment à cette croisée des chemins. Et surtout, ce qu'il va falloir comprendre, il va falloir suivre le comportement. Il faut que les taux longs remontent. On est tous aussi les taux longs parce qu'on espère que ça va s'améliorer la conjoncture, mais que ça n'étouffe pas cette reprise économique. Donc, on voit que le chemin est quand même assez étroit entre faut éviter la surréaction du marché obligataire et il faut que derrière, la croissance soit pas trop forte. Donc, on voit que c'est vraiment très, très étroit comme chemin pour les prochains mois, pour les marchés.
Alors on pourrait dire que Ben Bernanke a étonné les investisseurs, effectivement, sur sa stratégie. On pourrait dire qu'en Europe, on a vu tout de suite une réaction de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, dire, il va peut-être falloir faire un nouveau LTRO, donc nouvelle aide supplémentaire. Donc lui aussi, il est plutôt dans ce scénario-là.
Alors, il y a deux éléments qui justifient la position de la BCE. Premier élément, elle voudrait bien un petit peu décorréler, faire en sorte que si les taux longs américains montent, ça monte moins en Europe. Alors, on n'a pas d'illusion, ça montera, les marchés sont très corrélés, parce que du taux sans risque américain, si ça se rémunère mieux, eh ben, je vais pas acheter de l'Italie, même taux. Donc, il y aura un effet contagion. Mais on va essayer de limiter cette dégradation. Et puis, deuxième élément, objectivement, les marchés ont peut-être un peu surinterprété. Alors, il y a des bons indicateurs. Honnêtement, on prévoyait pas un rebond aussi fort de l'économie européenne. Un rebond lié à la demande intérieure. Qui aurait parié sur la consommation qui repart, l'investissement qui repart? Alors, un petit peu, mais on est quand même sur une bonne surprise sur le deuxième trimestre. Tout le problème, c'est est-ce qu'on trace le trait? Et ce que regarde aujourd'hui la BCE, c'est qu'il peut y avoir des contraintes de financement. Aujourd'hui, un des problèmes qu'il pourrait y avoir, c'est amélioration conjoncturelle, la demande qui se stabilise ou qui se redresse très, très légèrement. Mais face à ça, on a des problèmes de financement. On a des problèmes de financement de fonds de roulement et les entreprises finalement restent bloquées. C'est-à-dire que la reprise ne se déroule pas vraiment comme attendu. J'ai des carnets de commandes, mais je ne peux pas y faire face parce que j'ai peur d'avoir des problèmes de financement, j'ai peur d'avoir des fonds de roulement, j'hésite à monter mes stocks. Et donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'elle porte autant son attention sur le système bancaire, voir est-ce que les banques vont prêter, est-ce qu'elles vont avoir de la liquidité. Et donc on voit qu'aujourd'hui, elle va regarder ça de très près. Puis dernier élément, avant de faire un audit des banques, avant de voir si elles sont suffisamment capitalisées, c'est bien d'assurer leur financement parce qu'en cas de petit problème, parce qu'on sait que c'est les banques les plus fragiles, on aura assuré, si on fait ce qu'on appelle un LTRO, un financement aux banques, on aura assuré leur financement à moyen terme en cas de mauvaise surprise sur ce, naturellement, cet audit des comptes bancaires qu'on doit avoir au début d'année prochaine.
Alors on a vu aussi du côté, c'est l'impact de la réserve fédérale américaine sur les pays émergents. En tout cas, on a vu des flux se rapatrier aux États-Unis ou en Europe. Et les marchés émergents, les économies de ces pays émergents, on voit qu'elles sont aussi confrontées à ce manque de croissance États-Unis-Europe.
Alors clairement, alors maintenant il faut faire attention parce qu'on ne peut plus parler des émergents, on a différentes situations et ce qui est rassurant quelque part, parce qu'on n'est pas dans un schéma de la crise asiatique où on n'a pas eu un effet contagion, c'est-à-dire que les marchés ont été très discriminants dans les mouvements de change et je pense que dans les prochains mois on va avoir des choses très discriminantes. Alors ça c'est important, c'est à prendre en compte pour l'investisseur parce que naturellement l'exposition des boîtes aux différents pays émergents fera qu'on aura des résultats plus ou moins bons sur les émergents et on n'aura pas un message. Avant c'était simple, on disait on est sur les émergents et tout va bien. Là on va dire on est sur en Inde, c'est mitigé. On est en Corée du Sud, ça va beaucoup mieux. Donc, on va avoir des messages un peu divergents. Moi, je dirais que dans la partie stabilité, c'est la Chine. La Chine, aujourd'hui, n'a pas de raison de fortement ralentir. Si ça se stabilise en Europe, s'il n'y a pas de chute de ses exportations, avec ce qu'ils ont fait un peu pour soutenir la demande, on n'a pas de risque très majeur sur la Chine. Par contre, ça n'a pas accéléré parce que derrière, le gouvernement chinois va accélérer ses restructurations et ça va peser sur la croissance. Par contre, il y a des pays où on a beaucoup d'incertitudes encore. Tous les pays qui sont liés au prix des matières premières, qui sont très exportateurs des matières premières, eux, à notre avis, vont souffrir parce qu'il n'y aura pas de très forte hausse des prix des matières premières. Et puis, on a les problématiques d'inflation qui ont pesé sur la demande intérieure en Inde, au Brésil. Donc, on voit que là, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Donc, pour faire simple, c'est plutôt les pays asiatiques très exportateurs qui pourraient rebondir, s'améliorer, hormis l'Inde qui sera encore un peu en difficulté. Et l'Amérique latine, on reste très prudent avec une sensibilité très forte aux matières premières qui pourrait encore pénaliser un petit peu ces pays-là.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire justement en termes de stratégie d'investissement, puisque là, pour les investisseurs qui peut-être étaient allés sur les actions justement en disant que c'était plus le moment d'être sur les obligations, peut-être se reposer à nouveau la question sur les prochains mois. En tout cas, comment évolue-vous votre stratégie d'investissement?
Alors, nous, on n'est pas très haussier. On pense qu'il y a une petite performance des indices, mais pas énorme sur les trois prochains mois. On va marquer une pause. Il faut réduire un peu toutes ces incertitudes, il faut voir plus clair. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rotations sectorielles. Et je pense que là, on est mûr pour d'importantes rotations sectorielles. La hausse de cet été, c'était une repondération de l'Europe dans les portefeuilles internationaux. Et on l'a vu, les gens ont acheté les indices. Il y a très peu eu de rotations sectorielles par rapport à ce qu'on observe historiquement. Et surtout, on n'a pas eu d'arbitrage entre valeurs ou de stock picking, de sélection de valeurs très important. Donc, les investisseurs ont acheté les indices européens. Alors, nous, ce qu'on anticipe, c'est plutôt des rotations. Alors, nous, ce qu'on a tendance à préconiser, c'est revenir sur des secteurs qui aujourd'hui ne sont pas chers, bon, c'est facile à dire, qui ont des PE relativement faibles, mais qui ont une solidité dans la croissance de leurs bénéfices sur les dernières années. L'idée, c'est de jouer la smart value, c'est-à-dire des valeurs qui peuvent être repricées, revalorisées, parce qu'il y a une stabilisation de la conjoncture européenne, mais on ne va pas prendre des valeurs trop décotées, trop sensibles. Alors dans ces cas de figure, on a les industriels, des assureurs qui pourraient, parce qu'on est toujours haussier taux long, donc on pense que ça, ils vont en profiter, ils ne sont pas chers aujourd'hui. Donc on va jouer des secteurs un peu comme ça, automobile, chimie. Donc on joue sur ces secteurs-là qui peuvent avoir une amélioration de leur activité, mais encore dans un scénario relativement modéré de stabilisation, redémarrage de l'économie européenne. Donc si on a de mauvaises surprises, ce ne seront pas des secteurs très très exposés comme les télécoms ou les utilities qui eux pourraient vraiment souffrir s'il y avait de très mauvaises surprises sur des indicateurs européens.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Christian Parizeau. On rappelle que vous êtes donc chef économiste chez Aurel BGC.